Bonjour à tous, bienvenue sur nos ondes locales de proximité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Martine.
Bonjour Gilliane. Bonjour à tous nos auditeurs. Le mois dernier, nous avons évoqué le débarquement du 6 juin 1944 sur les côtes normandes et ses répercussions en Bresse et Revermont. Nos auditeurs peuvent retrouver le podcast sur le site internet de Radio B. Alors aujourd'hui, de quoi parlons-nous ?
Après ce débarquement du 6 juin 1944, le territoire français a peu à peu été libéré. Nous évoquons donc le moment où Bourg a connu sa libération. Après avoir écouté quelques notes de « Over the Rainbow » par Glenn Miller.
Dernier, notre chronique s'était terminée à l'été 1944. Que s'est-il passé ensuite ?
En juillet 1944, les maquis de lin ont subi une attaque généralisée éprouvante. Ils ont gardé espoir et repris la lutte en harcelant les Allemands pour retarder leur progression vers le front ouest.
Un événement majeur survient le 15 août, un nouveau débarquement des Alliés sur les côtes de Provence. Avec là, davantage de troupes françaises.
Les Allemands sont plus ou moins pris en tenaille. Au nord, ils décident alors de se replier derrière la Seine et d'organiser leur défense. Au sud, ils tentent de garder le contrôle des ports de Toulon et de Marseille, mais sans beaucoup de succès. Avec l'aide de la résistance, ces villes et ces ports sont repris les 26 et 29 août 1944.
Parallèlement, les troupes débarquées ont progressé dans l'arrière-pays et Grenoble est libérée dès le 22 août. Dans la vallée, la progression est aussi rapide, sauf à Montélimar, où les combats s'étendent du 21 au 28 août.
Lyon est l'étape suivante pour les belligérants, avec des objectifs différents.
Les Allemands veulent organiser au mieux leur retraite. Et les Alliés leur coupaient la route vers Besançon et Belfort. À cause d'un relief plus favorable pour les Allemands, les combats décisifs auront lieu dans les Vosges et sur le Rhin.
Le front n'est pas une ligne continue, car les Alliés progressent par la vallée du Rhône et par les Alpes. Il y a une interpénétration entre les troupes ennemies, et c'est pourquoi une colonne alliée est à Pondin dès le 30 août, alors que Lyon est encore occupé par les Allemands.
Mais revenons aux événements, à Bourg et dans ses environs, au moment du débarquement de Provence.
Le maquis harcèle toujours l'occupant. Il attaque le poste ennemi du Châtelet, à Saint-Étienne-du-Bois, et les Allemands répliquent par des représailles dans la commune, le 22 août.
La situation devient difficile pour tous, et les miliciens abandonnent Bourg dès le 19 août pour se réfugier à Belfort. Ils avaient pourtant fait une soirée de propagande au début du mois.
Le maquis multiplie ses actions contre les voies ferrées. Plus un train ne circule. À Bourg, les Allemands imposent l'état de siège à partir du 25 août, avec des restrictions pour la circulation et l'ouverture des cafés. Les rassemblements de plus de 3 personnes sont interdits.
La Bresse et l'Ain voient le repli d'une armée allemande en grande difficulté. Le moindre véhicule est réquisitionné par les soldats pour fuir plus vite. Ils volent même des bicyclettes avec des roues sans pneus. C'est un peu la déroute.
Les Américains, renseignés par les maquisards, progressent toujours. Et une bataille s'engage à Meximieux les 31 août et 1er septembre. Les Allemands résistent et leurs troupes peuvent évacuer Lyon en bon ordre.
Lyon est libéré le dimanche 3 septembre, alors qu'une autre bataille s'engage alors au plus au nord, à Morvelles-en-Bresse. Là encore, les Allemands résistent. Et les Américains accusent quelques pertes.
Les Américains installent leur artillerie sur les hauteurs du Revermont. Ils visent des batteries allemandes et détruisent celles installées route de Pondin. Quelques obus tombent sur Bourg et les alentours. Et l'un d'eux s'abat sur la chambre de commerce, provoquant la mort d'un homme.
Le dénouement est proche. Les Allemands continuent à refluer avec leurs derniers blindés. La ville est aussi menacée par l'éventuelle destruction des dépôts de munitions installés en forêt de Seillon. Face à cette menace, des habitants ont quitté la ville. Le maire de Perona intervient auprès des militaires allemands pour qu'ils renoncent à ces destructions. L'officier affirme qu'il respectera les ordres, mais qu'il y aura des ratés.
Ces explosions se produisent effectivement dans la nuit du 3 au 4 septembre, en deux temps. Elles sont violentes, mais heureusement partielles. Une dernière explosion est entendue. C'est celle qui frappe le pont de Lyon, car les Allemands veulent protéger leur retraite.
Un silence étrange s'installe dans la ville. Avant l'aube, des groupes de résistants se hasardent en reconnaissance. Et oui, les Allemands ont bien quitté la ville et les drapeaux des Alliés peuvent être accrochés aux grilles de la préfecture. Nous sommes le lundi 4 septembre 1944.
La nouvelle se propage rapidement et les habitants envahissent les rues, surtout lorsque les Américains arrivent par la route de Pondin et le passage à niveau du Mail. Du côté de Perona, ils arrivent à pied, en double colonne, avec prudence car personne ne sait s'il ne reste pas des tireurs ennemis embusqués. Mais non, tout se passe bien. Et c'est la fête partout autour des Américains qui distribuent généreusement des chewing-gums et autres confiseries, des sachets de café soluble, des choses inconnues en Bresse.
Parallèlement et discrètement, la résistance installe le pouvoir civil en préfecture, tel qu'il a été imaginé depuis le printemps dans l'ombre. Le nouveau préfet, Léon Blanchard, est d'ailleurs présent en Bresse depuis plusieurs jours. Il prend aussitôt ses fonctions et installe le comité départemental de la libération, lui aussi conçu dans la clandestinité. Tout se passe dans la légalité républicaine, sans heurts.
La fête se poursuit dans la ville et dans tous les villages, avec parfois des excès. Les autorités agissent pour que les hommes armés restent à l'extérieur de la ville et elles procèdent aux premières arrestations des collaborateurs et miliciens. Malheureusement, comme ailleurs en France, des résistants s'en prennent aux femmes qui ont été trop complaisantes avec les Allemands. Elles sont tondues et promenées dans les rues de la ville le mercredi 6 septembre. Un triste spectacle, heureusement isolé.
Pendant ce temps, les Américains continuent à traverser la région vers le nord. Leurs équipements, leur matériel moderne impressionne beaucoup. Leur blindé laboure un peu les rues, mais il ne peut en être autrement. Les enfants les approchent pour obtenir de nouveaux chewing-gums. C'est toujours la fête alors que la guerre s'éloigne.
Partout, les comités locaux de la libération se mettent en place dans les communes. Celui de Bourg est installé le 9 septembre sous la présidence d'Amédée Mercier, qui œuvrait au sein de la jeunesse laïque. Une des premières décisions du comité et de ne pas poursuivre l'ancien maire Joseph Dupont, qui a assumé une tâche délicate dans une période excessivement critique. En général, la transition se fait sans trop de problèmes dans les communes, car les élus, qui ont été trop zélés envers Vichy, ont été invités à s'éclipser bien avant la libération. Alors, il y a bien quelques arrivistes qui voudraient s'imposer, mais le bon sens prend le dessus.
À Bourg, toutes les composantes de la résistance civile et armée continuent à recruter des adeptes pour peser dans la nouvelle société. Cela concerne bien sûr les partis politiques, mais aussi l'Union des femmes françaises, particulièrement active par sa présidente Madeleine Blanchard, qui n'a que son patronyme en commun avec le nouveau préfet. Elle crée de nombreuses sections dans les communes voisines au service d'œuvres sociales, en faveur des prisonniers, contre la vie chère ou la défense des ménagères.
Elle est arrivée de Lyon la veille de la libération, comme son mari, André Blanchard, lui à la tête du Front National de l'époque. L'Union des femmes françaises et le Front National sont des organismes d'obédience communiste créés pour accentuer l'influence du Parti communiste. Madeleine et André Blanchard intègrent ou s'imposent au comité départemental de la libération. Mais ce dernier est composé essentiellement d'hommes modérés, comme le président Émile Bonnet, professeur honoraire.
Le Parti communiste a peu de prise dans notre Bresse rurale, mais la résistance s'est bien développée autour de deux pôles, le gaullisme et le communisme. Ils n'étaient pas rivaux, mais toujours séparés, même lorsque les FFI, Forces françaises de l'intérieur, ont été créées pour réunir toutes les forces combattantes au début de 1944. Leurs FTP, les francs-tireurs et partisans, ont été maintenus.
La situation est complexe. Mais une affaire encore plus étonnante choque la population. Le colonel Henri Romanpetit est mis aux arrêts de forteresse, au retour d'un voyage à Londres où il a été invité comme un héros. C'est pourtant le chef des maquis de lin, celui qui a organisé le célèbre défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.
Il était de notoriété publique qu'il avait un caractère entier, qu'il n'appréciait guère les civils de la résistance, qu'il qualifiait volontiers de politicard. Et lorsque le commissaire de la République pour la région de Lyon, Yves Farge, est allé le voir à Giron fin juillet 1944, il l'a reçu sans ménagement. Yves Farge était pourtant un résistant incontestable, comme devait l'être tout commissaire de la République, nommé avec l'agrément du général de Gaulle.
Yves Farge reprochait à Henri Romanpetit d'avoir cumulé les pouvoirs civils et militaires lorsqu'il a libéré le secteur de Nantua du 8 juin au 13 juillet 1944. Un document retrouvé aux archives départementales prouve que Romanpetit s'est effectivement octroyé ce double pouvoir. Et en République, c'est une faute impardonnable.
De Gaulle, présent à Lyon le 14 septembre, approuve l'emprisonnement de Romanpetit, à qui l'on reprochait une trop grande proximité avec les Anglais. Romanpetit sera libéré, mais interdit de séjour dans l'Ain jusqu'à fin décembre 1944.
Et cette affaire empoisonne tout l'après-guerre. Et en juin 1945, le comité départemental de la Libération va même déclarer Romanpetit indésirable dans l'Ain. S'il a été un chef incontesté dans la partie montagneuse de l'Ain, Romanpetit a été moins apprécié dans la partie de plaine.
La résistance a été menée par des hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. Mais tous les résistants ont œuvré pour la libération de notre pays et nous leur devons une entière reconnaissance. Ayons aussi une pensée pour ceux qui y ont perdu la vie. Cette émission se termine.
Eh oui, précisons que nos auditeurs peuvent retrouver des informations plus complètes sur le site des Chroniques de Bresse. Nous remercions Jimmy à la technique et Rémi pour son aide documentaire. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain en écoutant Glenn Miller dans Moonlight Serenade. Au revoir à tous.